RFI, grand reportage, Laurence Adou.
Cela fait 100 ans demain qu'avait commencé dans l'Empire ottoman finissant le génocide des populations arméniennes. Un siècle après, les responsables de l'État turc refusent toujours de reconnaître leur responsabilité dans ces massacres qui auraient fait, selon les Arméniens eux-mêmes, quelque 1 500 000 victimes et selon la Turquie, entre 300 et 500 000. Les deux positions, malgré la pression de la communauté internationale, semblent donc toujours inconciliable. Pourtant, dans la société turque, les mentalités ont sensiblement évolué ces dernières années et les Arméniens ont commencé à prendre la parole et à exposer leurs revendications sans pour autant réclamer ouvertement la reconnaissance du génocide. C'est un grand reportage que signe pour nous Jérôme Bastion. Jérôme, que l'on retrouve pour en parler dans un quart d'heure. Voici son reportage.
Dans le sud-est de la Turquie, non loin de la frontière syrienne, une camionnette grimpe une piste escarpée sur les flancs du mont Merato. Une région qui, il y a quelques décennies, était majoritairement peuplée d'Arméniens. À son bord, un enfant du pays, Aziz Dağcı. Il a fondé en 2009 la première association arménienne de la République turque depuis 1915. Et aujourd'hui, il se bat pour sauver les vestiges du passé. Sur le chemin de pierre qui mène au village de ses parents, Aziz ne décroche pas son regard du mont Merato, encore enneigé, au pied duquel il est né. Au moins une fois par an, toujours avec la même émotion, il retourne sur ses terres où il essaye de faire reconstruire le monastère, utilisé aujourd'hui comme une étable. Aziz Dağcı, expliquez-nous, où est-ce que nous sommes ici en ce moment ?
Ici, il n'y avait que des Arméniens avant, depuis bien avant la naissance du Christ. C'était une importante ville arménienne, Sasun, fondée et administrée par le grand roi David. Mon village à moi, c'est Archan Korsan, qui dépend de Sasun. Ce monastère, c'est le roi David qui l'avait fait construire au XIe siècle. C'était mon aïeul. Je descends de lui en lignée directe.
Et votre famille, à quelle époque, dans quelles circonstances, elle a quitté ce village, cette région ?
Ma famille est partie vers l'année 1955. Mon père avait alors dû partir à Istanbul. Et la raison en est que nous n'avions plus de prêtres envoyés par le patriarcat. Ils nous ont convoqués au poste de gendarmerie et nous ont dit « Si vous ne vous convertissez pas à l'islam, vous devrez disparaître d'ici. » On a tout abandonné et on est parti. Ceux qui sont restés, ils ont dû devenir musulmans.
Ça veut dire qu'il y a à la fois des Arméniens chrétiens encore dans la région et aussi des Arméniens convertis.
Oui, il reste des Arméniens. Il doit y avoir une trentaine de foyers d'Arméniens chrétiens. Quant aux convertis, il doit y en avoir entre 300 et 400 foyers.
Aujourd'hui, vous essayez de faire reconstruire ce monastère ?
Nous avons obtenu du Parlement qu'il émette une directive pour sa reconstruction, et nous le reconstruirons si Dieu le veut. Le gouverneur et le sous-préfet nous soutiennent, nous attendons aussi une aide financière de l'UNESCO pour pouvoir commencer les travaux, et nous l'aurons.
Au bout d'une heure de marche dans la montagne, Aziz et ses amis arrivent au niveau de l'ancien monastère, qui est méconnaissable, c'est une ruine. Et là, stupeur, les tombes qui l'entourent ont toutes été ouvertes, éventrées, et elles gisent ainsi à l'air libre.
C'est la première fois que je monte jusqu'ici. Et qu'est-ce que je découvre en arrivant ? Je suis très triste. Toutes les tombes arméniennes ont été profanées. Et là, je me demande, est-ce que ces tombes, si elles n'étaient pas arméniennes, est-ce qu'elles auraient été violées ? Qu'est-ce qu'il pouvait y avoir là-dedans ? Rien. Ils les ont ouvertes pour le plaisir. Aussi, je demande au gouverneur de Batman de les placer sous protection.
À l'intérieur de l'église, éventrée de toutes parts, Aziz est abordé par des hommes en armes qui lui demandent qui il est, ce qu'il fait ici. Car dans cette région, les forces anti-guérilla, gardiens de villages et militaires, assurent toujours un strict contrôle des moindres allées et venues. Aziz sort de sa besace les documents officiels qui évoquent le statut du monastère Saint-Pierre et parlemente longuement avant de reprendre l'inspection des lieux.
Je demande au gouverneur ainsi qu'au ministère de la Culture de protéger l'église. Elle ne peut pas rester ainsi. C'est un lieu de culte qui, comme tous les lieux de culte, doit être respecté. Regardez, c'est devenu une étable pleine de déjections. Il est clair qu'en été, on y garde le bétail. C'est pourquoi l'État doit prendre les mesures de préservation qui s'imposent.
Dehors, une petite foule s'est formée. Des villageois intrigués sont venus voir ce que vient faire là Aziz. Le maire du hameau le plus proche, Ekrem Sönmez, se montre prudent mais plutôt favorable au projet.
Pour la restauration, il faut une route d'un kilomètre et demi passant par mon village. Avec cela, le monastère, une fois restauré, les visiteurs pourront venir facilement pique-niquer, ce sera parfait. Des touristes viendront de toute la Turquie et du monde entier.
Et est-ce que l'État turc est prêt à faire ces investissements et cette restauration ?
Là, je ne sais pas, mais nous, les villageois, on est pour. On entend parler de ce projet, mais pour l'instant, il ne se concrétise pas.
Les habitants de la région qui sont venus visiter ce qui reste du monastère se réjouissent de l'éventuelle restauration de ce monument qui leur apporterait des visiteurs et quelques revenus. Mais les Arméniens, eux, attendent beaucoup plus du gouvernement turc. Le combat d'Aziz Dağcı peut paraître dérisoire, mais il aurait été impensable il y a encore une décennie. Il est donc symbolique d'une renaissance, d'une réappropriation de la parole et d'une toute nouvelle affirmation de l'identité de cette communauté qui a enfin appris à sortir de son silence, à dépasser ses peurs. Cette confiance regagnée s'illustre par exemple avec la candidature à la députation de l'avocate Selina Özuzun Doğan sous la bannière du Parti Social-Démocrate CHP. Dans un beau restaurant du bord de mer, le CHP, le Parti Républicain du Peuple, présente son programme de campagne et ses candidats à la députation, parmi lesquels Selina Özuzun, une candidate peu ordinaire.
Bonjour Selina.
Bonjour.
Pourquoi est-ce que vous êtes une candidate un peu à part ? Quelle est votre originalité parmi les milliers de candidats à la députation de cette année ?
C'est une candidature historique, je dirais. C'est la première fois qu'une Arménienne est femme à la fois et candidate en Turquie, candidate députée. Donc je trouve que ça c'est très important.
Est-ce que c'est aussi particulièrement symbolique que ça se passe en 2015, le centenaire de 1915 ?
Je ne peux pas dire que ça n'a pas un impact, mais il faut admettre ça comme un pas stratégique plutôt. C'est pas symbolique, stratégique au sens de changement de la mentalité de JAP.
Est-ce qu'il y a 10 ans ou 15 ans ou 20 ans, ça aurait été possible ? Ou est-ce qu'aujourd'hui, c'est possible parce que les Arméniens sont un peu sortis de leur silence et de leur isolement ?
Oui, ils sont plus visibles maintenant, exactement. Ils ont beaucoup plus de possibilités de porter leur voix dans la public, je dirais. Bien sûr, c'était toujours possible sur le papier. Mais je crois que la Turquie n'était pas prête. Maintenant, il faut bien utiliser cette chance.
Le tabou est tombé. Comment est-ce qu'on pourrait décrire ce changement de paysage ces 10 ou peut-être 15 dernières années ou peut-être 5 dernières années ? Comment vous l'analysez, vous ?
Après l'assassinat de Hrant Dink, les Arméniens ont trouvé beaucoup plus de chances de parler de leurs problèmes, soit de leurs problèmes historiques, soit de leurs problèmes contemporains. Et aussi, il y a une mobilisation parmi les jeunes Arméniens. Je trouve très, très important. Et mon ambition, c'est de laisser une signature dans l'histoire arménienne en Turquie au sens de l'évolution des droits de l'homme.
L'assassinat, le 19 janvier 2007, du journaliste Hrant Dink, fondateur du journal Agos et héros courageux du dialogue pour la réconciliation, a en effet brisé le mur de la peur. Ainsi, ce témoignage rare du descendant de l'un des tout premiers Arméniens arrêté à Istanbul le 24 avril 1915. Pendant des années, il avait refusé de s'exprimer au grand jour et plus encore de qualifier de génocide les événements du siècle dernier.
Parmi les intellectuels raflés à Istanbul, il y avait mon grand-père. À 5 heures du matin, ils sont venus frapper à la porte. « Monsieur Bedros, nous sommes venus vous emmener », ont-ils dit. « Qu'est-ce que je dois emmener avec moi ?» a-t-il demandé. Ils lui auront répondu « Seulement une chemise blanche ». Elle lui aura servi de linceul. Ensuite, on ne l'a jamais revu. À cette époque, les Arméniens étaient environ 1 700 000 à vivre ici. Si les 4 cinquièmes ont disparu, il y a un gros point d'interrogation qui cache mal une déportation parfaitement calculée. On peut appeler cela déportation, mais c'est le mot qui signifie en fait génocide. Parce que, une fois pour toutes, il faut dire que c'est un génocide. Si dans une communauté tous les hommes d'une famille sont tués et si les femmes sont livrées comme une marchandise à d'autres à des fins de reproduction, moi je dis que c'est un génocide.
Ben soykırımı böyle düşünüyorum.
Qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui? Quelle forme de justice ou de réparation vous attendez aujourd'hui?
Tayyip Erdoğan'ın.
L'an dernier, Tayyip Erdoğan avait entamé une démarche remarquable. Beaucoup d'Arméniens et même plus, beaucoup de Turcs avaient salué le courage d'une posture éclairée.
Bir düşüncenin fikrini ortaya koyduğunu gördüler. Ve ben dedim ki önümüzdeki 100. yıl bir şeyleri daha farklı söyleyecek.
Et alors je me suis dit que pour le centenaire qui approchait, il irait encore plus loin et qu'il dirait, puisque ce qui est arrivé est arrivé, il est temps de donner aux descendants de ces victimes la possibilité d'exprimer leur douleur avec leurs mots à eux, de s'inscrire à leur tour dans cette histoire. Cela aurait été très important.
Siz de varsınızı ifade etmek çok önemliydi. Bugün bu tarih 100. yılını tamamlıyor. Yani
aujourd'hui un siècle s'est écoulé et reconnaître ce qui s'est passé n'est pas une honte au regard de la dignité des hommes.
İnsanlık onuru için.
Mais moi, je vis comme une honte le fait de ne pas savoir où repose mon grand-père, ni d'avoir pu récupérer sa dépouille après tout ce temps.
Kendi bu tarihinden bugüne yaşanan o cenazenin ayıbını yaşıyorum.
La disparition brutale de Hrant Dink a aussi poussé la société civile turque, emmenée par Cengiz Aktar, Ali Bayramoğlu, Baskın Orhan et Ahmet İnsel, à prendre la tête d'une initiative qui, elle aussi, repoussait les limites de l'autocensure. Cengiz Aktar.
Ma conscience ne peut accepter que l'on reste indifférent à la grande catastrophe que les Arméniens ottomans ont subie en 1915 et qu'on la nie. Je regrette cette injustice et pour ma part, je partage les sentiments et les peines de mes frères et sœurs arméniens et je leur demande pardon. L'appel au pardon, c'était une première en Turquie. Il y a eu des réactions épidermiques, vraiment, lorsque ça a démarré. En fait, la Turquie officielle a rejeté ça, mais la Turquie non officielle, si je puis dire, la société turque a réagi différemment et... Je me rappelle avoir parlé à un ami arménien, il m'a dit, eh bien, si vous arrivez à 10 000 signatures à la fin 2009, c'est-à-dire un an après, en fait c'était donc le 15 décembre 2008, j'écrirai sur cette initiative. On était à 10 000 signatures dans les 3 ou 4 jours qui ont suivi le lancement. Au total, il y a eu 30 000 et quelques très vite, là 32 454 juste. Je pense que c'était une étape importante. Ça a fait son temps, son œuvre, et maintenant il faut passer à autre chose.
C'est vrai que la société civile a fait son travail. Le tabou est quasiment tombé, mais toujours pas du côté de l'État, puisqu'on voit qu'aujourd'hui encore, en 2015, l'État turc est toujours aussi arc-bouté sur ses positions.
On ne peut plus associer ces deux mots, Turquie et génocide, dans la même phrase, parce qu'il y a plusieurs Turquies maintenant. Il y a la Turquie officielle, qui a toujours sa langue de bois. Cela dit, il faut rendre à César ce qui lui appartient. Ce gouvernement a beaucoup fait quand même, comparé à ses prédécesseurs. Pas pour faire reconnaître le génocide, mais afin des ouvertures vers les minorités non musulmanes. Cela dit, il peut pas aller plus loin. Il a consommé ses possibilités politiques, si vous voulez. Et on ne peut plus compter sur ce gouvernement. D'ailleurs, le meilleur travail de mémoire est l'œuvre de la société civile. Et c'est vraiment un travail sain, pérenne, qui est en cours, là, en Turquie. Et ça n'a pas commencé avec l'appel au pardon. C'est un processus qui a, à mon avis, facilement 20 ans. Et le tabou est certainement craquelé. Maintenant, les jeunes ne gobent plus tout ce que le discours officiel racontait au sujet des Arméniens ou des Syriaques ou des Grecs. En fait, tous les éléments non musulmans qui n'étaient pas, par définition, compris dans l'invention de la nouvelle nation turque. Donc, les djinns sont sortis de leur bouteille et vont plus jamais y rentrer.
Un appel au pardon qui fut également présenté aux Arméniens l'an dernier par les responsables politiques de la communauté kurde qui sont allés jusqu'à reconnaître leur implication directe dans les massacres et à présenter leurs excuses. Le rédacteur en chef du plus vieux journal en langue arménienne du monde, fondé en 1909, pense que le rapprochement turco-arménien ne pourra qu'emboîter le pas à la révolution des consciences en marche depuis quelques années en Turquie. Ah, Koçunian, vous êtes le directeur de publication de Jamanak. Depuis quelques années, il y a eu une ouverture sur la question des événements de 1915. Comment est-ce que vous analysez, vous, cette évolution ?
Actuellement, le problème de la génocide arménien n'est plus un tabou en Turquie. C'est presque devenu un problème terminologique. Bien sûr que ce terme génocide a des dimensions différentes politiques et juridiques surtout. Mais c'est sûr que entre l'Arménie et la Turquie, on va avoir un rapprochement. Sur le plan des sociétés civiles aussi, nous observons la même chose actuellement. Moi, je pense que cette tension de 2015, ça va passer. Et après, les deux peuples et les deux États, ils vont prendre le chemin de construire un avenir, un futur ensemble.
Arménien de Turquie, la fin du silence. Un grand reportage de Jérôme Bastion, réalisation Jérémy Besset.
Jérôme Bastion, vous êtes l'auteur de ce grand reportage. Alors, l'an dernier, le Premier ministre de l'époque avait présenté ses condoléances au peuple arménien, mais depuis, son discours n'a pas évolué. C'est bien ça?
Oui, c'est vrai, Laurent, que les déclarations de M. Erdogan à l'époque avaient suscité beaucoup d'espoir. Pensez donc, c'était la première fois qu'un dirigeant turc présentait ses condoléances à la population arménienne. Il est vrai, en parlant des souffrances subies tant par les Turcs que par les Arméniens, comme si les situations des deux communautés étaient comparables. Le chef du gouvernement avait alors dit partager leur douleur sans reconnaître une quelconque responsabilité dans les exécutions, déportations ou massacres et sans demander pardon. Mais comme ce geste intervenait un an avant le centenaire, il avait soulevé beaucoup d'espoir malgré tout, chacun espérant que c'était là un début et que cette année, un geste plus fort allait encore être fait. En fait, comme il fallait le craindre, il n'en a rien été et cette année, Ankara ne fait que répéter qu'il n'y a jamais eu de génocide, que cela ne figure pas dans la tradition du peuple turc et donc le pouvoir en place se retranche dans une attitude de déni plus catégorique peut-être que jamais. C'est indiscutablement une déception pour ceux qui attendaient enfin un acte ou un début de contrition et d'empathie.
Alors, les déclarations récentes du pape François, la décision du Parlement européen le week-end dernier de demander à la Turquie de reconnaître le génocide, quel effet ont-elles eu sur les autorités turques?
Ces accusations, ces allégations, a notamment dit M. Erdogan, me rentrent par une oreille et me sortent immédiatement par l'autre. Et il n'a pas tardé à brandir la menace de représailles. D'ailleurs, Ankara avait immédiatement rappelé son ambassadeur au Vatican et menacé de plus amples mesures de rétorsion. Vis-à-vis du Parlement européen, guère de possibilités de riposte, mais des commentaires acides sur le thème. L'Europe, elle-même championne des massacres et génocides en tout genre au XXe siècle, ferait mieux de faire son autocritique et surtout elle ferait mieux de freiner l'islamophobie grandissante. C'est une lubie d'Ankara. Bref, l'administration turque, comme c'était prévisible, se braque, mais ne reçoit toujours pas le message. Il faut dire qu'il y a ici des élections législatives cruciales pour le parti au pouvoir en juin prochain, et comme le parti de gouvernement craint de perdre sa majorité, il ne veut pas prendre le risque de s'aliéner les voix nationalistes. Donc, tout est dans l'ordre des choses, en quelque sorte.
Et puis, Jérôme, ce sera ma dernière question. Y aura-t-il des commémorations à Istanbul simultanément aux commémorations qui se tiendront à Erevan? Quelle sera l'attitude du gouvernement turc dans ce cas?
Écoutez, Laurent, en fait, ça le fait quelques années déjà qu'il y a des commémorations ici à l'initiative des organisations de défense des droits de l'homme et des amis de la communauté arménienne relativement limitées en nombre. Cette année, il devrait y avoir plus de monde, notamment des participants étrangers, européens, de la diaspora arménienne, mais il ne devrait pas y avoir de heurts avec la police, les forces de sécurité, à moins qu'une foule beaucoup plus importante ne se réunisse, mais ce n'est pas prévu. De son côté, le gouvernement a tenu à avancer les commémorations de la bataille de Gallipoli avec de nombreux invités étrangers, histoire de faire de l'ombre en quelque sorte au centenaire du génocide, mais cela n'empêchera pas les voix de plus en plus nombreuses et de plus en plus fortes de la communauté arménienne de se faire entendre à Istanbul et d'ailleurs dans plusieurs autres villes du pays également.
Ce sera le mot de la fin. Un grand reportage, bien sûr, à réécouter sur RFI.fr. Jérôme Bastion, merci beaucoup.
L'épopée des musiques noires. Trop longtemps.